nous proposons aujourd'hui la première d'une série d'émissions consacrée à l'ouvrage « L'espèce humaine » de Robert Antelme. Pour situer l'auteur en quelques mots, nous dirons que Robert Antelme est né en janvier 1917 et que donc il avait 27 ans en 1944 et il est décédé le 26 octobre 90 à 73 ans. En 1939, il épousait Marguerite Duras dans une sorte de mariage blanc et en avril 43, Dionis Mascolo, compagnon de Duras, fait la connaissance de Robert Antelme. En septembre 43, semble-t-il, peut-être février 44, on ne sait pas bien, ils entrent tous en contact avec Morland, alias François Mitterrand, et entrent tous ensemble le même jour dans son réseau de résistance. Le mouvement national des prisonniers de guerre est déporté. Le 1er juin 44, une souricière est tendue par la Gestapo dans la planque de la rue du Pin à Paris, avec cinq ou six autres, dont sa sœur Marie-Louise, qui ne reviendra pas des camps, Robert Antelme est arrêté et sera déporté à Buchenwald par le convoi 1265, le dernier qui quitta Compiègne le 17 août 44 en direction de Buchenwald, et dont presque la moitié des déportés ne reviendront pas. Il est ensuite dirigé sur le camp commando de Buchenwald Gandersheim, et il est libéré le 8 mai 45 à l'extrême limite de la mort. Il est récupéré miraculeusement et presque par hasard dans des conditions rocambolesques par Mitterrand, dépêché par De Gaulle en visite dans les camps tout juste libérés. Son retour à la vie est raconté par Marguerite Duras dans son ouvrage bouleversant « La douleur » et Robert Antelme, de son côté, est obsédé à son retour par sa volonté de témoigner. Il parle sans fin et il publiera en 1947 quasiment un seul ouvrage, même s'il passa le reste de sa vie à travailler dans la littérature. Son livre n'est qu'un parmi des centaines et milliers d'autres sur la déportation, mais il a des spécificités qui en font un document unique et en particulier sa volonté de porter un regard et une réflexion permanente sur son vécu. Les faits, bien sûr, mais surtout un regard et une réflexion humaine sur eux. Il veut montrer comment, malgré l'acharnement des nazis à traiter les déportés en non-humains et à vouloir les considérer comme tels, ils n'y arriveront jamais. Et comment il n'y a qu'une espèce humaine à laquelle déportés et nazis appartiennent, quoi qu'ils fassent pour le nier. Un intérêt de son ouvrage est aussi de rendre compte fabuleusement de ce qu'il peut en être pour un humain, de la fin, et ce sont essentiellement des extraits sur ce sujet que nous vous ferons découvrir. Il donne un peu à savoir tout ce qu'il peut en être de vivre la fin dans une souffrance totale. Avec nous pour réaliser cette émission et dire les textes de Robert Antelme, Combord, que les auditeurs de Radio Canu bien sûr connaissent bien, et que je remercie de sa participation à ce projet.
Bonjour.
Les jours qui se sont écoulés depuis le 1er octobre sont soudés les uns aux autres dans le déroulement des corvées, les cris des capots, la soupe, la faim toujours, et aussi la gravitation des choses précieuses, le vent, le mouvement des nuages dans le vent d'ouest, le cirque des collines, les silhouettes des hommes libres sur la route, la locomotive, l'automobile, la bicyclette, toute chose qui règne sur l'espace et qui appelle les regards des enfants. Pendant 3 jours, on va se remplir d'images. Elles vont fulgurer dans la tête. Ce sera la fête. Pas avec les mains, ni les mâchoires, ni les lèvres. La fête noire dans la tête, la fête des natures mortes. Des types disent qu'on aura une boule de pain chacun, une pomme, peut-être une soupe épaisse avec un morceau de viande. Tiens, je leur laisse leur boule et leur ragoût s'ils me laissent partir. Connerie chronique. On s'excite, on se donne la liberté comme à un chien auquel on lâche la laisse. Mais on sait qu'on est enchaîné et qu'on sera bien content s'il y a la boule. La boule, c'est l'orgie de pain. De quoi manger un bon moment, on se remplirait. Quand on serait rempli, il en resterait encore et on serait plein. On dormirait plein. On couperait les premières tranches comme d'un gâteau. Puis, au fur et à mesure que la boule diminuerait, ça deviendrait du pain. On pourrait même mâcher et parler en même temps. On craindrait moins d'arriver à la fin de la boule. Ce matin, la neige tombe épaisse. Les bois, les collines sont couverts d'un feutre éblouissant. Les pas ne résonnent plus, ni ceux des SS, ni les nôtres. Le ciel clôt un coffret. Il n'y a d'horizon pour personne. Au chiotte, deux Polonais fument un mégot. Deux Français sont assis sur la barre au bord de la fosse. J'ai enlevé les ficelles qui retiennent mon pantalon et je l'ai ouvert, ainsi que mon caleçon déchiré. Je ne vois guère mes cuisses qu'aux chiottes. Elles sont mauves, leur peau est ridée. Celles d'un Français qui est assis sur la barre sont plus blanches. On s'habitue à se regarder chier. Mais il reste toujours un peu de curiosité. Les plus silencieux se livrent ici, les plus redoutables aussi. Le gros capot Ernst, qui cogne, essaie lui aussi de rigoler avec nous quand il chie. Ici, il ne peut pas garder sa dignité, et c'est pour cela d'ailleurs qu'à l'usine, des cabinets sont réservés aux civils. Et il essaye de faire comme s'il choisissait pour un moment l'humilité de sa situation, en parlant amicalement avec ceux qui sont là. Quelquefois, il se trouve que c'est avec celui sur lequel il vient de cogner. Mais Ernst ne peut rien faire pour ne pas nous paraître indécent. Ses caleçons sont blancs, ses cuisses énormes, il est fort, même en chiant. Il ne peut pas devenir un type à cuisses grises ou mauves, à genoux proéminents. Il est plus criant que jamais qu'il bouffe au moins ses trois rations de pain par jour, une série de gamelles, etc. La fosse est pleine et recouverte d'un duvet de neige. On s'attarde un moment, assis sur la barre. « Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ?» demande un des Français. « Rien, » répond l'autre. Celui qui a posé la question se doutait qu'il n'y avait rien de nouveau. Depuis qu'on est ici, depuis le 1er octobre, il n'y a jamais rien eu de nouveau. Mais chaque matin, on a posé la question. Celui qui la pose maintenant ne peut pas se répondre lui-même. Il ne peut pas savoir que ce qu'il constate, et cela, c'est toujours la même chose, c'est le pain du matin, l'usine, les chiottes. Depuis qu'il est enfermé, tout ce qui n'est pas le pain, l'usine, lui est caché. L'autre a répondu « Rien ». Il en est au même point que celui qui le questionne, mais il n'a pas dit « Je ne sais pas », il a dit « Rien ». Bien qu'il ne sache pas s'il n'y a pas quelque chose. Il a répondu selon ce qu'il a constaté, et nous avons tous la même expérience. Et l'autre n'insiste pas, car il croit que le copain, en disant « Rien !» lui a livré son secret. « Tu crois qu'il y en a pour longtemps ?» demande le questionnaire. « Je ne crois pas. » Le premier se rassure. Il suffit que l'autre ne soit pas trop bavard et qu'il ne réponde pas « Je ne sais pas ». S'il reste ainsi dans le vague, s'il ne se laisse pas aller à se demander « Comment sais-tu ?» ils se rassureront. Chacun apportera à l'autre ce qu'il attend, comme d'un frère, comme d'une mère. Quelqu'un qui n'est pas soi et qui ne menace pas, quelqu'un qui répond « Je ne crois pas, c'est tout ce que peut dire le copain. Il le dit avec assurance, ça suffit. L'autre ne demandera pas plus. » Ces questions, ces réponses n'ont pas de sens, mais c'est le langage que l'on tient aux chiottes, et c'est à ce moment-là l'essentiel de ce que l'on va se dire. Ils se sont levés. Debout, sur le banc, ils ont enfermé leurs cuisses dans les pantalons qu'ils ont ficelés, tout cela lentement. Puis, ils sont descendus du banc et ils sont restés un moment les mains dans les poches, les épaules en dedans, entre les quatre planches des chiottes. Ils n'ont rien appris de nouveau.
Quoi de nouveau ?
Rien. Alors, il n'y a plus rien à faire aux chiottes. Il faut s'en aller.
Il est 10 heures à peine. Encore toute la journée à faire passer. Demain, c'est Noël.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Maintenant, c'est la mémoire qui va s'y mettre sérieusement. Si la mémoire n'existait pas, il n'y aurait pas de camp de concentration. Et il ne manquait plus que ça maintenant, qu'on entende Noël entre les planches des chiottes, à piétiner la merde.
Eux aussi disent Weihnachten.
Et on est toujours en zébré.
Cette nuit, il y aura peut-être trêve des fours à Auschwitz. Cette nuit de l'année serait la nuit de leur conscience. La boule de pain pour 4, peut-être la boule pour 2, ou pourquoi pas la boule pour 1. La boule de leur frousse, la boule pour 1, la trêve des fours. Et leur conscience festoie peut-être ce soir.
Ce soir, on ne tue pas. Non, pas ce soir.
Jusqu'à demain. Ce soir, les capots des fours se saoulent. Ce soir, tout le monde chante sur toute la terre, même à Auschwitz.
La boule pour 1, la réconciliation universelle, l'unité du genre humain accomplie. Ce soir, tout le monde va donc rigoler ou pleurer pour la même chose.
Honteuse attente, merde vraie, chiotte vraie, four vrai, cendre vraie, vraie vie d'ici.
On ne veut pas pour ce jour être plus homme que la veille et le lendemain. On a installé un petit sapin au pied d'une carlingue. On l'a fait sérieusement. On a balayé l'usine avec plus de soin que d'habitude.
Ils étaient distraits et ils parlaient entre eux.
Les femmes riaient.
On les a regardées comme si quelque chose d'important devait arriver avant notre prochaine rencontre. Cette chose importante, c'était la fin de l'année qui arrivait sur nous.
La sirène a sonné 4 heures et on a quitté l'usine.
Il ne neigeait plus, le ciel s'était découvert.
Il y avait même un peu de soleil sur les bois.
On est arrivé devant l'église, on s'est laissé compter. On a attendu. Fallait encore les gagner. La paillasse et la journée de Noël.
Dormir d'abord,
qu'on nous laisse dormir sur nos paillasses. Et c'est assez.
était 6h05. Le travail finissait à 6h. Je suis allé me laver les mains. Quand je suis revenu, le Meister à la blouse verte, patron de pied plat, m'attendait devant ma plaque de Dural. Il m'a demandé de lui montrer mes mains. Je les ai tendues. Elles étaient propres. Un coup de poing dans la figure. J'ai été branlé. J'ai porté les mains aux yeux. J'y voyais. J'ai regardé mes mains. Il n'y avait pas de sang. Il est parti un peu plus loin. Il semblait attendre que je le regarde, ce que j'ai fait. Il a tourné la tête. Je suis resté ainsi immobile un petit moment. La carlingue devant moi était floue. Un camarade a ramassé mes lunettes. Il ne restait plus de verre et la monture était cassée. Je l'ai mise dans ma poche. Tout était cotonneux autour de moi. La corne de la fin du travail a sonné. J'ai quitté la plaque de Dural devant laquelle j'étais resté. Comme j'y voyais mal, je relevais la tête, je regardais le Meister à blouse verte. Avant de l'atteindre, j'ai fortement cligné des yeux pour mieux le voir en passant près de lui. Je voulais le voir après. Il avait ouvert son armoire, il s'apprêtait à partir et mangeait une tartine. Hier soir, en rentrant au bloc, un camarade m'a donné un des verres de mes lunettes qu'il avait trouvé. Il était intact. Je n'ai pas pu l'adapter à la monture qui était cassée. Je n'ai pas insisté parce que je voulais en profiter pour ne pas travailler. En arrivant à l'usine, je suis allé trouver le capot Ernst. Je lui ai dit que je n'y voyais pas et que je ne pouvais rien faire. Il était installé près de la chaudière et mangeait un gros morceau de saucisson qu'il a craché quand je me suis approché de lui. Il n'a rien répondu. Je suis allé me cacher aux chiottes. Le Meister à blouse verte m'a vu, mais il ne m'a pas appelé. En allant vers les chiottes, je marchais en levant la tête et en clignant des yeux, comme un homme qui n'y voit pas. Aux chiottes, j'ai pris dans ma poche le verre intact et je l'ai ajusté sur mon œil droit, en monocle. Par la lucarne, j'ai surveillé la cantine des SS. C'était l'heure où l'on jetait les feuilles de choux et les épluchures de carottes dans le coffre en bois. Il n'y avait pas de capots environ. Un type était déjà là-bas, penché sur le coffre. Il plongeait dedans. J'ai enlevé le monocle et j'y suis allé. Sorti de l'enceinte de l'usine, je suis allé vite. Tous les 20 mètres, j'ajustais le verre pour observer si aucun capot ne venait. J'avais pris sous le bras une boîte dans laquelle j'avais mis 2 ou 3 pièces de fonte comme maquillage. Avant de m'engager sur la bande de terrain découvert qui me séparait du coffre, j'ai observé encore avec le monocle. Personne, personne. J'ai foncé. Il ne restait au fond du coffre que quelques feuilles de choux rouges couvertes de boue. À pleine main, j'ai rempli la boîte en bois. En revenant, j'ai ajusté encore plusieurs fois le monocle. J'ai mis les pièces de fonte sur les feuilles et je suis allé les laver au robinet de l'usine. J'en ai coupé quelques morceaux que j'ai mangés. Puis, je suis allé cacher le reste dans les travées du magasin, sous des plaques de Dural.
sans lunettes, j'y voyais très mal. J'étais cependant obligé de travailler à l'usine. Les coups de pied plat m'arrivaient dessus et je ne pouvais rien parer. Je me suis décidé à aller au bureau du Lageralstester pour demander si je ne pourrais pas avoir une paire de lunettes. Il y avait là Lucien, un secrétaire tchèque, Paul et un interprète belge. Je me suis adressé au tchèque. Il faisait frire des patates. Il y avait une odeur terrible, mais ici, personne n'y prenait garde, ne regardait le poêle. Quand je me suis approché, le tchèque a relevé la tête et je lui ai raconté mon histoire de lunettes. Il l'a consignée par écrit et m'a fait signer. Le gros capot Ernst est arrivé à ce moment-là et me voyant, il a demandé à lire le papier. Il y était indiqué que mes lunettes avaient été cassées par un coup de poing du Meister. Il a ri et a dit au tchèque que c'était ennuyeux d'écrire cela parce que ce Meister était au contraire très doux en général. Le tchèque lui a répondu que, puisque je demandais des lunettes, il fallait bien indiquer que j'avais perdu, comment j'avais perdu les miennes. Le capot n'a pas insisté. Là-dessus, Paul est arrivé et, ennuyé, m'a demandé ce que je voulais. Le tchèque lui a expliqué. Et il m'a demandé si j'avais de l'argent. Puisque je n'en avais pas, je ne pourrais pas avoir de lunettes. À moins que le Lagerführer SS ne veuille bien me les offrir. Pendant toute cette conversation, j'ai été surpris que l'on ne me mette pas dehors. J'étais appuyé contre la table du tchèque. Je n'étais pas malade. En arrivant, Paul a demandé tout de suite ce que je faisais là. Mais quand on lui a dit que c'était parce que je n'avais plus de lunettes, il a accepté ma présence. Un SS est arrivé. On lui a raconté l'affaire et il n'a pas semblé penser à me donner un deuxième coup de poing. Lui aussi a été sensible à cette affaire de lunettes. Je suis resté comme un intouchable, attendant qu'on voulût bien trouver une solution, mais il n'y en avait pas. On m'a laissé partir sans m'insulter. Un camarade a réparé la monture de mes anciennes lunettes et ajusté le verre intact. Je suis revenu à mon atelier. Le jour même, j'ai eu à détacher un tuyau à air comprimé du robinet. Je n'avais pas fermé la pression. Le tuyau m'a sauté dans la figure. Cette fois, les lunettes ont été pulvérisées. J'étais sur une échelle. Encore une fois, j'ai passé la main sur mes yeux, puis je suis descendu lentement de l'échelle. Le Meister me regardait. J'ai remis mon calot qui était tombé par terre et je suis parti. Il n'a rien dit. Je suis d'abord allé aux chiottes. Je pensais à essayer de faire l'aveugle. Un moment après, je suis rentré dans l'usine, j'ai marché en levant la tête comme un somnambule, et j'ai croisé le Meister qui m'a regardé et n'a rien dit. Sans lunettes, je pouvais mimer celui que je m'étais senti être en réalité dès le premier jour de mon entrée dans cette usine. J'ai traversé l'usine très lentement en levant la tête. Je ne me suis arrêté à aucun atelier. Personne ne m'a touché. J'ai mené ce jeu 2 jours. Le 3e jour, dans l'après-midi, je me trouvais devant un atelier du hall et je bavardais avec un copain. Je me croyais camouflé. Un coup de poing sur la tête. Je me suis retourné. C'était pied plat. « Was machst du? Kein Brie? » ai-je répondu, en montrant mes yeux. Encore un coup de poing sur la tête. Il n'y avait rien à faire. Ça tombait comme un marteau. Il pouvait continuer longtemps ainsi. J'ai esquivé le 4e coup. Ça l'a fait râler davantage. Pied plat. Jouet. Thank you.
René possède un morceau de miroir qu'il a trouvé à Buchenwald après le bombardement d'août. Il hésite à le sortir, parce que aussitôt on se précipite et on le lui réclame. On veut se regarder. La dernière fois que j'ai eu le miroir, il y avait longtemps que je ne m'étais pas regardé. C'était un dimanche. J'étais assis sur la paillasse. J'ai pris mon temps. Je n'ai pas examiné tout de suite si j'avais le teint jaune ou grisâtre, ni comment étaient mon nez ou mes dents. D'abord, j'ai vu apparaître une figure. J'avais oublié. Je ne portais qu'un poids sur les épaules. Le regard du SS, sa manière d'être avec nous, toujours la même, signifiait qu'il n'existait pas pour lui de différence entre telle ou telle figure de détenu. À l'appel, en colonne par cinq, il fallait que dans chaque colonne, le SS pût compter cinq têtes. So fünf, cinq, cinq, cinq têtes. Une figure n'était repérable que par un objet surajouté, par exemple, les lunettes, qui dans ce sens étaient une calamité. Et si quelqu'un devait demeurer repéré, pour ne pas le perdre, les capots dessinaient un cercle rouge et un cercle blanc dans le dos de sa veste rayée. D'autre part, personne n'avait, par le visage, à exprimer rien au SS, qui aurait pu être le commencement d'un dialogue et qui aurait pu susciter sur le visage du SS quelque chose d'autre que cette négation permanente et la même pour tous. Ainsi, comme il était non seulement inutile, mais plutôt dangereux malgré lui dans nos rapports avec l'USS, on en était venu à faire soi-même un effort de négation de son propre visage, parfaitement accordé à celui du SS. Nier, deux fois nier, ou alors aussi risible et aussi provocante qu'un masque. C'était proprement provoquer le scandale, en effet, que de porter sur nos épaules quelque chose de notre visage ancien, le masque de l'homme. La figure avait fini pour nous-mêmes par s'absenter de notre vie. Car, même dans nos rapports entre détenus, elle restait grevée de cette absence. Elle était presque devenue cela. Du même rayé, du même crâne rasé, de l'amaigrissement progressif du rythme de la vie ici. Ce qui apparaissait des autres pour chacun, c'était bien, en définitive, une figure à peu de choses près collective et anonyme. D'où cette sorte de seconde fin qui nous poussait tous à chercher à nous retrouver par le sortilège du miroir. Ce dimanche-là, je tenais ma figure dans la glace. Sans beauté, sans laideur, elle était éblouissante. Elle avait suivi et elle se promenait ici. Elle était sans emploi maintenant, mais c'était bien elle, la machine à exprimer. Ah, la gueule du SS apparaissait nulle à côté. Et la figure des copains, qui à leur tour allaient se regarder, restait réduite, elle, à l'état fixé par le SS. Celle du miroir était seule distincte. Seule, elle voulait dire quelque chose que l'on ne pouvait pas recevoir ici. C'était sur un mirage que s'ouvrait ce morceau de verre. On n'était pas comme ça ici. On était comme ça que dans la glace, tout seul. Et ce que les copains attendaient avec envie, c'était ce morceau de solitude éclatant où devaient venir se noyer les SS et tous les autres. Mais il fallait lâcher le miroir, le passer à un autre qui attendait, avide. On faisait la queue pour le morceau de solitude. Et pendant qu'on l'avait en main, sa solitude, les autres vous harcelaient. Cependant, même s'il n'avait pas fallu passer la glace à un autre, je l'aurais abandonné, parce que déjà, je contaminais la figure qui était dedans. Elle vieillissait, elle allait se niveler sur celle des copains, pendante, misérable, comme les mains que l'on regarde les yeux vides. Et c'était mieux ainsi. Cet objet neuf, isolé, encadré, n'avait rien à faire ici. Il ne pouvait que désespérer radicalement, faire mesurer de façon insupportable une distance dont la nature même était insupportablement incertaine. Ce n'était pas là un état passé dont on n'aurait eu qu'à se souvenir, comme tous les autres états passés, et qui aurait été comme tous les autres, simplement déchirant. C'était exténuant. C'était ce que l'on pouvait réellement redevenir demain. Et c'était le plus impossible.
Ainsi se termine notre lecture pour aujourd'hui, mais pas notre émission. Nous allons la poursuivre en... Bon, tout d'abord, je tiens à remercier Combor, comédien, homme de théâtre, homme de lettres, animateur aussi de Radio Canu, qui a bien voulu s'associer à ce projet. Et donc, autour de Robert Antelme, je vais vous proposer deux documents. Un, c'est François Mitterrand qui raconte comment il a retrouvé Robert Antelme à Dachau et dans quelles circonstances. Donc, c'est un document. Et puis, le suivant, ce sera un document de Georges Beauchamp qui, lui, parce que dans un premier temps, ils ont trouvé Antelme, mais il n'était pas question de le sortir à l'instant. Donc, ils sont revenus quelques jours après. Ils ont mené une opération. Enfin, tout ça va vous être commenté. Bon, tout d'abord, on écoute Mitterrand parler de cette aventure-là.
Certains avaient vu des camps et avaient su ce qui s'y passait. Mais c'était une source d'information quand même extrêmement faible, ténue. Donc, on ne savait pas grand-chose. Le général de Gaulle m'a fait demander si, m'a chargé en somme, d'accompagner le général Lewis, le général Becker, je ne connais rien de lui, sinon son nom, et à un moment sa personne, pour participer à, au nom de la France à l'ouverture de quelques camps. Et c'est ainsi que nous sommes allés à Landsberg, où il n'y avait d'ailleurs aucun survivant, petite ville où il y avait ce camp, petite ville où avait été interné pendant un certain temps Hitler, c'est là qu'il a écrit, je pense, un certain nombre de chapitres de Mein Kampf. Et puis ensuite, Dachau. Alors ça, c'est un spectacle, évidemment, pour moi inoubliable, tragique et inoubliable, encore moins n'ai-je vu cela qu'en tant que visiteur d'un moment, quand on pense à ceux qui ont vécu là. On ose imaginer, bon, circulant dans cette première heure de la libération, les soldats allemands pourchassés, abattus, ceux qui attendaient leur sort, que leur sort fut décidé, les déporter sur la place centrale du camp, devant la grande baraque qui portait en tuiles de couleurs différentes les mots Arbeit macht frei, le travail c'est la liberté, une sorte d'ironie hein. Étrange, bon. Et puis les baraques, les mourants, les morts qui servaient souvent d'accoudoir aux survivants, bon. Puis les cadavres dans le autour du camp, et puis les lieux d'exécution, les fours crématoires qui continuaient de fonctionner, les corps qui continuaient d'être enfournés dans le brasier. Bon, enfin, j'étais là avec un de mes camarades de mon mouvement que j'avais emmené avec moi, qui s'appelait Pierre Bugeaud, et on circulait dans ce camp immense, témoin des scènes. Je vous en ai décrit certaines. Et on enjambait dans une sorte de champ, de terrain vague, à l'intérieur du camp, des corps. Beaucoup de morts et ceux qui mouraient, qui étaient jetés là. Et alors que nous étions comme ça, en essayant de ne pas marcher naturellement, on a entendu une voix. Quelqu'un a dit « François ». Et Pierre Bugeaud s'est penché, je me suis à mon tour penché, je ne savais pas qui c'était. Finalement, on a repéré celui qui venait de m'appeler par mon prénom, que nous n'avons pas reconnu, c'était Robert Antelme. On s'était quitté en juin 1944, nous étions en je ne sais plus quand. Alors, aussitôt, j'ai demandé au général Lewis la possibilité de ramener immédiatement avec nous Robert Antelme à Paris, ce qu'il a refusé parce que les consignes étaient strictes, il pouvait avoir le typhus, etc., etc., l'administration. Je suis donc rentré presque aussitôt après à Paris. Là, j'avais un papier, un document qui m'avait autorisé à rentrer dans les camps. Aussitôt, mais on en avait un peu l'habitude, on est allé dans une imprimerie, on a fabriqué des faux. Et une équipée composée de Jacques Benet, Georges Beauchamp et Dionis Mascolo, une voiture, direction Dachau Munich, naturellement sans étape. Ils sont arrivés dans le camp, je crois qu'ils ont habillé Robert Antelme en soldat américain. Ils l'ont porté comme ça, comme un soldat ivre, et ils ont franchi le poterne du camp sans difficulté, puis ils ont pris la route, direction Paris. Arrivés à Strasbourg, ils ont pensé que Robert était mort. C'est inanimé. Je crois qu'un médecin a fait une piqûre, je dis je crois, parce que s'il faut leur demander, ils ont vécu cela de plus près que moi, et il pourrait y avoir tel ou tel détail qui corrigerait ce que j'apporte. Mais tous ceux qui ont vécu ces heures n'aimaient pas en parler. Ça lui était certainement plus facile, si l'on peut dire, d'écrire à leur sujet que d'en parler. Je vous répète, moi je suis convaincu que l'espèce humaine non seulement est le plus beau livre paru sur la déportation, mais l'un des grands livres de cette époque. Pas assez connu, car il dépasse de beaucoup le simple récit d'une déportation, et même que les réflexions qu'à première vue peut inspirer ce type de situation. Là où il va, c'est une considération de ce qu'est l'homme dans le plus affreux malheur.
Après donc ce récit par François Mitterrand, la suite nous vous proposons ce qu'a dit de cet événement Georges Beauchamp, qui lui faisait partie des trois personnes qui ont été récupérées Robert Antelme à Dachau.
J'ai pris l'uniforme de colonel de François Mitterrand, c'est ça, tous les sauf-conduits qu'il avait, et je suis parti. Nous avons poulé jour et nuit pour arriver à Dachau, et nous avons erré dans le camp, Mascolo et moi, pendant un certain nombre d'heures, dans un camp où nous avons... Enfin, en ce qui me concerne, moi, c'est un des rares moments de ma vie où j'ai dû être bon, bon complètement, c'est-à-dire que j'acceptais de mourir éventuellement du typhus. Le camp avait été libéré par les Américains et la garde était assurée par des militaires américains, généralement des Noirs américains, qui avaient masque à gaz pour se protéger du typhus, car le typhus ravageait le camp. Le typhus, d'une part, et le fait que les libérateurs avaient donné aux détenus accès aux réserves alimentaires des SS. Alors, les conserves de saucisses, les trucs, et les détenus s'étaient jetés là-dessus, ce qui fait qu'ils mouraient du typhus et ils mouraient de dysenterie, parce que, évidemment, ils n'avaient pas été traités comme ils devaient l'être, comme ils l'ont été par la suite. Donc, nous avons, avec Mascolo, erré, puis, par hasard, Robert nous a reconnus, il était là, Narton Nebel, enfin, il était dans... Il y avait un mort à côté, il était entre deux morts, allongé, puis, quand on est passé, malgré nos uniformes, on avait enlevé nos calots pour être plus reconnaissables, enfin, qu'il voit nos visages, il était là. Et je voulais dire qu'on a mis un certain temps avant de le reconnaître. Et puis on l'a. Alors on avait emporté des vêtements, enfin légers et un calot pour le. On l'a porté avec Mascolo. Nous l'avons fait passer le poste de garde. Mais avant, quand nous sommes arrivés à la hauteur du bloc SS qui était sur le chemin de la sortie du camp. Robert, qui était très faible pourtant, avait une tentation évidente d'enlever son calot, comme cela a été imposé aux détenus qui passaient devant le camp SS. Il devait se découvrir. Et on avait beaucoup de mal, parce que si c'était découvert ce calot, c'était un enlèvement. Et quand moi j'avais emporté avec moi dans la voiture, ma voiture que j'avais utilisée, j'avais emporté des charbons activés, de produits pour lutter contre la dysenterie, et puis j'avais emporté de quoi faire une piqûre d'huile camphrée. Je ne suis pas du tout un spécialiste, j'appréhendais à avoir le faire, mais nous avons franchi le poste, et là, Robert, immédiatement après, a fait une syncope, et je me suis rendu dans la première maison venu, qui était une maison en bordure du camp, et j'ai fait bouillir une seringue et je lui ai fait une piqûre d'huile camphrée. Et puis nous sommes partis et nous avons roulé. Nous sommes arrivés en Alsace. Alors il était dans un état très faible. Il faisait, je ne sais pas, 30 et quelques kilos, alors que sa corpulence était de 80 kilos, normalement. Et il était très faible, mais il avait envie de parler. Et nous sommes arrivés en Alsace, où il a dit, je n'arriverai pas à Paris, je vais mourir, mais je voudrais manger une truite. Alors nous sommes partis, Dionys et moi, nous avons cherché, nous avons trouvé... C'était du côté de Vissembourg, je crois, je ne me souviens plus exactement, dans une pisciculture, une dame à qui on a exposé le problème et qui s'est débrouillée alors que la pisciculture ne fonctionnait pas, elle ne fonctionnait plus, elle nous a trouvé une truite qu'on a pu faire cuire, Robert en a mangé quelques bouchées, et puis il s'est endormi, le lendemain matin on est reparti et nous sommes arrivés à Paris, où alors il a été pris en charge par par les services normaux pour les rapatrier. Et je dois dire que là, Marguerite a été d'une très grande... J'imagine qu'elle avait de l'affection pour Robert, et Marguerite Duras a été très bien. Elle l'a soignée avec beaucoup de dévouement. C'était un très grand monsieur.
Thank you.
Ainsi se termine cette première émission consacrée à Robert Anthelme. La musique que vous avez entendue au fil de cette émission sont des extraits de musique improvisée, composée et interprétée par Terry Riley, musicien américain, en particulier Touching on the Direction. Nous souhaitons une bonne journée à nos auditeurs et nous donnons rendez-vous pour une prochaine émission consacrée à Robert Anthelme, mais peut-être même sûrement pas jeudi prochain. Nous vous communiquerons la date comme à l'habitude sur le site de Radio Canada. Merci.
Thank you. Thank you.